Le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce jeudi, nous sommes le 23 janvier, nous parlons de l'avenue à Lyon d'Aurore Berger, la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. La fraude au TCL coûterait des dizaines de millions d'euros chaque année, c'est ce qu'indique Bruno Bernard, mais la situation pourrait bien changer. L'expérimentation d'un radar anti-bruit a pris 3 ans de retard à Bron, mais le radar pourrait vraiment dresser des PV à partir de juillet. Le juge des référés doit trancher aujourd'hui concernant l'extension du site de Dekin. 200 000 visiteurs attendus au salon CIRA à Eurexpo à partir d'aujourd'hui jusqu'à lundi. Vincent Rimbaud, directeur de Muto, est notre invité. Muto, entreprise spécialisée dans la collecte de matériaux au service de l'événementiel. Explication dans ce quart d'heure lyonnais.
Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. La ministre chargée de l'égalité femmes-hommes, Aurore Berger, est donc à Lyon aujourd'hui pour porter une parole engagée en faveur de l'égalité des chances et contre les stéréotypes de genre, indique le ministère. La ministre va échanger avec des entrepreneurs femmes accompagnées par l'incubateur Les Premières dans le 6e arrondissement. Elle se rendra ensuite à Caluire pour rencontrer des femmes accompagnées par l'association Femmes Battantes qui accompagne l'entrepreneuriat féminin. Aurore Berger remettra ensuite les insignes d'officier de la Légion d'honneur à Michel Vianès, président de l'association lyonnaise Regard de Femmes qui lutte pour les droits des femmes depuis 1998. Aurore Berger visitera enfin le centre d'entraînement des joueuses de l'OL féminin. La fraude au TCL coûterait des dizaines de millions d'euros chaque année, c'est ce qu'indique Bruno Bernard. Le président du Citral a bien l'intention de serrer la vis. À l'heure actuelle, les taux de fraude se situeraient aux alentours de 7% dans les métros, 12% dans les trams, 17% dans les bus. Des objectifs ont été fixés aux délégataires Keolis et RATP. Ils devront, sous peine de malus à la fin de leur contrat, avoir réduit les taux de fraude. Bruno Bernard confirme une hausse des effectifs de contrôle. Il devrait y avoir 20% de plus de contrôle prévu par rapport à la situation actuelle. Quant à Stop Fraude, le fameux dispositif qui permet aux contrôleurs de vérifier les identités et les adresses des fraudeurs via les fichiers fiscaux, il sera mis en application dès que possible. La SPL des transports à Lyon n'est pour l'instant pas habilitée. L'expérimentation d'un radar anti-bruit a pris 3 ans de retard à Bron. C'était en 2022 que tout a débuté. Les premières sanctions devraient tomber cette année à Bron pour les véhicules trop bruyants. Peut-être en juillet, croit savoir le progrès. Les conducteurs recevront une amende de 135 euros, minorée à 90 euros en cas de paiement sous 15 jours, s'ils dépassent le seuil de décibels. Le ministère de la Transition explique que les radars n'ont pas encore été homologués. À Bron, les résultats de la première phase ont révélé un excès sonore tous les 2 jours en moyenne, entre février et août 2022. Essentiellement des 2 roues. L'axe sélectionné est en plein centre-ville, avenue Camille Rousset, où près de 8000 véhicules circulent chaque jour. C'est la fin de l'épisode de pollution qui aura duré 6 jours. La préfecture du Rhône a décidé de lever les mesures d'urgence. Les conditions sont favorables à une meilleure dispersion de la pollution, avec aussi une diminution des concentrations en particules. Le juge des référés doit trancher ce jeudi concernant l'extension du site Dekin. Des associations et des riverains de Pierre-Bénite réclament la suspension de l'activité tant qu'il n'y a pas d'étude de concernant son impact sur l'environnement. En toile de fond, bien sûr, les PFAS, les polluants éternels. L'audience s'est déroulée hier. Dekin met en avant les autorisations du passé, des rejets en baisse, des filtres qui piègent les substances. Les requérants pointent, eux, l'ampleur de la pollution aux PFAS, notamment autour de Pierre-Bénite. Dekin Chemical France a relancé son unité pré-compound émettrice de PFAS le 15 octobre dernier.
Lyon demain, le média influenceur d'avenir.
200 000 visiteurs sont attendus au salon CIRA à Eurexpo à partir d'aujourd'hui jusqu'à lundi. Le réseau TCL va déployer un dispositif exceptionnel pour faciliter l'accès au site et encourager l'utilisation des transports en commun. La ligne T5 voit sa fréquence renforcée. Elle circule toutes les 6 à 7 minutes jusqu'à 20 heures, puis toutes les 10 à 15 minutes entre 20h et 21h avant de passer à une fréquence de 17 minutes après 21h. La navette N100 assure pour sa part la liaison entre Vaux-en-Velin-la-Soie et Eurexpo. Elle assurera un départ toutes les 4 minutes. La ligne T3 est également renforcée, notamment samedi et dimanche. Un important dispositif humain est par ailleurs déployé pour orienter et accompagner les voyageurs et assurer ainsi une gestion des flux optimale. Dans quelques instants, on parle de Muto, entreprise spécialisée dans la collecte des matériaux et qui intervient en particulier sur le salon CIRA.
BFM Lyon, votre chaîne numéro 1 sur l'actualité lyonnaise. Vous êtes 450 000 Lyonnais à nous faire confiance. Merci pour votre fidélité. Et chaque mercredi à 17h45, retrouvez la chronique Planète Local, en partenariat avec Lyon Demain. BFM Lyon, votre réflexe info local, en télé et en digital.
Bonjour Vincent Rimbaud.
Bonjour Gérald, enchanté.
Directeur de Muto, entreprise spécialisée dans la collecte de matériaux et au service d'un secteur en particulier, le secteur de l'événementiel. Pourquoi le secteur de l'événementiel, c'est vraiment le mauvais élève en la matière ?
On peut dire ça, il n'y a pas que l'événementiel, mais c'est vrai que c'est quand même un milieu qui consomme énormément de matières premières pour fabriquer des aménagements éphémères. Et tout ça est une boucle très linéaire, où on n'essaie pas effectivement de réutiliser, de réemployer ou de recycler les éléments. Tout part à la benne souvent après un événement qui peut durer quelques minutes, hein, pour ce qui concerne un défilé de mode, ou quelques semaines pour un salon, mais voilà, toujours un usage très court.
Qu'est-ce qu'on peut récupérer exactement sur un stand ? Comment vous travaillez ?
Alors, quand on organise un événement, on recouvre un petit peu du sol au plafond pour créer des expériences immersives de marque. Et donc, on construit, on fabrique, on recouvre les murs, les plafonds, les sols avec des moquettes, des planchers, des cloisons, du coton gratté, donc décoratifs, des meubles aussi qui sont fabriqués sur mesure, des décors, que voilà, et beaucoup de signalétique. Hein, faut pas oublier qu'il y a aussi souvent l'affichage qui est fait sur des bâches qui sont souvent des dérivés de plastique, de PVC, etc. Donc voilà, il y a tout un tas de choses, majoritairement bois, plastique, carton, métal, voilà, c'est les grandes catégories textiles.
Dans l'événementiel, on aime bien quand même le matériel neuf quand on a un stand. Alors je suppose que le matériel que vous récupérez n'est pas forcément recyclé dans l'événementiel.
Alors une partie des éléments sont récupérés pour être réemployés, notamment certains éléments standardisés. Voilà, sur les salons, vous avez on appelle des structures modulaires qui vont pouvoir resservir à fabriquer des structures de stand d'un salon à un autre. Donc ça, c'est une très bonne chose. Voilà. Mais il y a aussi des contraintes de certains événements de timing et d'identité de marque qui font qu'on est obligé de fabriquer en sur-mesure. Et donc, voilà. Et la plupart du temps, on est sur un hybride. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont être utilisées et aussi une grosse partie de ce que nous, on va considérer comme les consommables. Il n'y a pas de réutilisation potentielle. Et le fait qu'on doive monter, démonter très vite dans des conditions qui sont parfois très complexes, puisqu'on a peu de temps sur ces moments de transition entre les événements, fait qu'on n'a pas le temps et les moyens de préserver la matière première. Donc on va être un petit peu brut de décoffrage au moment de démontage, et on va du coup casser un événement. D'ailleurs, on appelle ça casser quand on démonte un événement. Quand on est dans les équipes techniques, on dit top, ça y est, on casse l'événement. Et c'est vrai que c'est assez symbolique du fait qu'on se préoccupe pas trop de savoir si ces matériaux vont pouvoir resservir. Ils sont jetés en vrac dans des bennes de déchets mélangés. Et là, malheureusement, il n'y a plus rien à faire.
Quelle est la destination des matériaux que vous récupérez ? Vous appelez, les destinataires, vous les appelez des bénéficiaires, c'est ça ?
Exactement. Alors, nous, on a pris le parti d'être en don gratuit parce qu'on considère que les projets qu'on veut aider de façon prioritaire, qui sont majoritairement de l'économie sociale et solidaire, donc beaucoup d'associatifs, de caritatifs, d'humanitaires, en fait, n'ont pas d'argent. Donc, on voulait lever le frein principal au réemploi, qui est le coût intrinsèque de la matière première. Et pour ça, du coup, on a construit un modèle économique qui est basé sur le principe du pollueur-payeur, où ce sont les marques, les annonceurs, les organisateurs d'événements qui veulent faire des projets plus responsables, qui vont financer l'intervention de Muto et qui vont permettre justement qu'en bout de chaîne, on soit sur un système de dons. Voilà. Donc, pour répondre très directement à la question, c'est pas forcément le statut qui fait qu'on ne donne pas qu'aux associations, on donne aussi à tous ceux qui portent des projets responsables sur le côté écologique et social, qui sont les deux piliers de Muto, qui est une société à mission en l'occurrence. Et donc, ça peut être autant des associations effectivement que des ateliers solidaires, que des collectivités, que des collectifs d'artistes engagés. Voilà, il y a tout un tas de projets qui rentrent aujourd'hui dans notre matériothèque, en fait, qui sont bénéficiaires de notre matériothèque, qui sont plus de 2500 sur toute la France.
Quand vous démontez un salon, je suppose que ça représente des quantités énormes de matériaux. Comment vous êtes organisé pour ça ?
Alors, en fait, c'est une bonne question. Effectivement, alors les salons, certes, mais il y a notamment des événements comme les Jeux Olympiques cet été qui nous ont obligés à brasser beaucoup de matériel. On a fait 230 tonnes hein, sur les Jeux Olympiques, pour vous donner un petit ordre de grandeur. Comment on fait ça ? Évidemment, on n'est pas en capacité de récupérer, de tout stocker à l'instant T. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on anticipe. C'est-à-dire qu'on va travailler très en amont avec les organisateurs sur les inventaires de matériaux qui vont être consommés par les événements, pour savoir à la fin des fins qu'est-ce qu'on va récupérer, dans quelle quantité, dans quel conditionnement, etc. Et ça, en fait, on va pouvoir le faire matcher avec notre matériothèque en ligne, qui nous permet de référencer tous les bénéficiaires qui ont besoin de quelle typologie de matériaux à quel endroit. Et donc, en fait, les flux vont être organisés en direct, c'est-à-dire que on va pouvoir faire venir sur les sites nos bénéficiaires, pour ceux qui ont des moyens logistiques propres. On va pouvoir sinon charger nos camions et aller faire des livraisons en direct. Et en fait, ne revient chez nous que les éléments qui n'ont pas trouvé preneur au moment où l'événement se démonte. Et en l'occurrence, ça représente en gros 50%.
Et pour cela, vous avez une plateforme pour suivre la destination des matériaux. Ça s'appelle Mutools, si j'ai bien compris.
Oui, tout à fait. C'est une matériothèque en ligne qu'on a développée avec une technologie no-code. Donc, c'est vraiment un outil qui aujourd'hui nous appartient et qui a été développé pour répondre à notre besoin. Il est double. En amont des événements, on fait ce système de matching que j'évoquais à l'instant. On va faire se rencontrer des besoins et des offres de matériaux de seconde main. Donc évidemment, il y a un gros enjeu là-dessus pour faire du sourcing, pour faire connaître notre matériothèque et les produits qui s'y trouvent. Ça, c'est une partie du boulot de mon équipe. Et après coup en amont, la deuxième fonctionnalité de cette plateforme, c'est qu'une fois que les matériaux sont rentrés chez nous, ils sont référencés de façon très précise, on crée des fiches articles avec des codes, des poids, des dimensions, etc. Et là, pour le coup, c'est un showroom virtuel, donc plateforme en ligne, comme vous allez sur le Bon Coin, vous faites votre panier, et sauf qu'à la fin, vous sortez pas la carte bleue, vous prenez un rendez-vous avec mes équipes, vous venez chercher la matière au dépôt. Donc voilà, cet outil-là, il a cette double fonctionnalité et il permet évidemment de tout tracer, ce qui nous permet à la fin, pour nos clients, de pouvoir leur expliquer qui a récupéré quoi, à quel moment et pour quel projet de réemploi. Et donc, évidemment, c'est un outil qui, aujourd'hui, est un petit peu le cœur du réacteur pour nous.
Qu'est-ce que deviennent ces matériaux s'ils ne sont pas récupérés, s'ils ne sont pas réemployés? Le recyclage, je pensais que c'était la bonne solution, mais non?
Pas tout à fait. En réalité, le recyclage, on s'aperçoit qu'il intervient toujours trop tôt. Et c'est ce qui fait que, de toute façon, c'est une solution non pas à condamner, parce que dans certains cas, c'est quand même moindre mal, mais il s'avère que, voilà, on consomme, en fait, on recycle trop peu, trop mal, trop loin et trop tôt. C'est toujours la règle des trois à trop. Et donc, pour toutes ces raisons, il vaut mieux favoriser en premier lieu les solutions de réemploi, de réutilisation, d'upcycling sur ce créneau-là que nous, qu'on s'est focus exclusivement. On n'a pas de benne, d'ailleurs, chez nous, donc on ne sait pas gérer de déchets, proprement parler. Tout ce qu'on récupère, ça va être donné et ça va être plus ou moins retravaillé, plus ou moins retransformé pour être réutilisé, pour être recyclé, pour être remis dans un cycle de vie. Et l'idée, c'est que, en fait, on arrive à faire en sorte d'éloigner le plus possible l'étape de fabrication, exploitation d'un produit et son étape de destruction. Et donc là, plus vous mettez d'étapes de réemploi entre chaque, plus à la fin, vous avez, en fait, dans votre analyse de cycle de vie, un bilan écologique qui est minime. C'est tout l'enjeu du réemploi, là où le recyclage puisqu'on détruit quand même pour recréer certes, mais on détruit quand même un matériau qui pourrait être réutilisé avant d'être détruit.
Comment vous avez travaillé avec le CIRA, le salon qui débute en cette fin de semaine à Eurexpo, comment ça se passe?
Là en l'occurrence sur le CIRA, on a travaillé avec les équipes qui organisent des différentes zones dans les 7 halls d'expo de l'événement. Alors nous on s'occupe plus particulièrement d'un hall d'expo et d'une zone dans un de ces halls métier de bouche, en l'occurrence, voilà, hall 2.3 pour ceux qui voudraient nous y voir à l'action. Et on a une autre action sur le salon, on a commencé à fabriquer et commercialiser une gamme de mobilier circulaire, donc éco-conçu, sur la base des matériaux qui sont récupérés sur les événements de nos partenaires, qui s'appellent Simu. Ce sont des meubles de forme cubique qui s'assemblent à la manière des Lego, tout bêtement. Donc c'est aussi très modulaire, on peut en faire un petit peu ce qu'on veut. Et ces meubles-là vont permettre de meubler un espace qui va s'appeler Cira Collect, dans lequel on présente toutes les solutions pour l'anti-gaspi sur le salon. Donc à côté de nous, vous avez par exemple le Resto du Cœur, voilà. Et donc si vous voulez venir sur le Cira Collect pour voir un petit peu tous ces acteurs qui font en sorte qu'on consomme moins sur le salon, vous pourrez aussi visualiser nos meubles en situation réelle.
Merci Vincent Rimbaud, directeur de Muto, entreprise spécialisée dans la collecte de matériaux au service de l'événementiel. Concrètement, si on est un particulier, une association, si on a envie de retrouver justement les matériaux, comment on fait pour aller sur la plateforme?
Alors c'est très simple, vous allez sur le site de Muto Events, donc www.mutoevents.com. Vous allez voir qu'il y a une petite page qui s'appelle Matériothèque, sur laquelle vous pouvez postuler. Voilà, répondre à un certain nombre de questions et voir si votre projet est, on va dire, légitime à récupérer des matériaux gratuitement. Pour ça, il faut remplir un certain nombre de critères et en l'occurrence, ne pas être un particulier ou une entreprise à but exclusivement lucratif.
Merci beaucoup Vincent.
Bonne journée, merci Gérald.
Lyon demain, la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde.
Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabrice Pannecouque, a présenté le camion opéra, sa mission, porter l'art lyrique au plus près des habitants. Ce camion se déploie pour proposer une scène et un gradin avec des éléments qui viennent s'accoler pour recevoir un espace convivial. Objectif, offrir une salle de 97 places dans des lieux éloignés des cintres de l'institution lyonnaise. À l'affiche, une création, le sang du glacier, une œuvre d'actualité tournée vers la question du climat et qui sera interprétée par une équipe adaptée à cette itinérance. Une soprano et un baryton soutenus par un accordéon, un violoncelle et une harpe. Les tarifs se veulent très abordables, entre 10 et 15 euros. Le camion itinérant sera à Valdoin entre le 18 et le 20 février, à Vernaison également du 4 au 6 mars. Le sang du glacier tournera également dans les salles des territoires d'Auvergne-Rhône-Alpes, même des petites MJC de novembre à janvier 2026, précise la région et l'institution. Enfin ridiculisé, il y a une semaine à Bourgoin en Coupe de France, l'Olympique lyonnais va tenter tenter de redorer son image. Ce soir, en Ligue Europa, les Lyonnais affrontent le Fenerbahçe à 18h45 sur les bords de la mer Marmara. Notez que, pour rappel, l'équipe turque est dirigée par un certain José Mourinho, que l'Olympique Lyonnais a déjà croisé quand il entraînait Porto et le Real Madrid. L'Olympique Lyonnais peut rafler dès maintenant un billet pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa, à condition bien sûr de s'imposer ce soir. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour la dernière édition de la semaine.